Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Acte 8. Acte des Apôtres, chapitre 8, tout de suite après la Genèse. C'est correct, c'est parce que je niaisais les jeunes vendredi soir. Je cherchais leur livre dans... J'entendais la chanson dans ma tête, puis je trouvais mes livres. OK, on va aller dans un mot de prière ensemble. Père éternel, nous venons dans ta présence ce matin. Seigneur, nous nous réjouissons déjà de ce que tu nous as donné à travers la louange. Seigneur, tu as rempli mon cœur de louange ce matin et mon attention est portée vers toi ce matin. Je veux reconnaître que tu es Dieu, que tout ce que tu donnes est bon. Seigneur Jésus, je sais que tout ce que tu donnes est bon parce que tu t'es donné toi-même. Père, parce que tu as donné ton Fils. Comment pourrais-je, Seigneur, douter de ta bonté après que tu aies fait un sacrifice semblable? Père, je veux te demander de venir nous rencontrer ce matin dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, écouter ce passage et méditer sur ce passage comme venant de toi, Seigneur. C'est ta sainte parole, c'est l'épée de ton esprit. Et Seigneur, que cette parole soit puissante dans nos vies, dans nos cœurs. Et pour toute personne au milieu de nous qui ne connaît pas personnellement Jésus-Christ, qui n'a pas placé sa foi, ne s'est pas repenti et n'a pas placé sa foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que ton esprit parle ce matin. Je t'en prie, Seigneur, que ton esprit parle et parle à ton Église, Seigneur. C'est ton Église, nous sommes à toi. Tu nous as rachetés à un grand prix. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Nous sommes tes enfants chéris. Viens nous parler ce matin. Je t'en prie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 8, versets 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage-là, on arrive à un point tournant. Je l'ai mentionné avec le meurtre d'Étienne, tout va changer pour l'Église de Jérusalem. Et les mots qui me venaient à l'esprit alors que je regardais ce passage-là, c'est « méga church »,« méga dispersion », méga mission. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des méga church. C'est quelque chose qui est apparu dans les 10-15 dernières années environ. On va décrire une église comme une méga church lorsqu'il y a 2000 personnes et plus, d'accord, en assistance régulière. Alors, on n'est pas une méga church ici, je peux vous le dire. Mais 2000 personnes et plus. On estime environ à 1500 églises aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, protestantes qui ont 2000 personnes et plus en assistance le dimanche matin. Certaines d'entre elles ont 10 000 personnes. Une église va jusqu'à 47 000 personnes. On parle d'assistance régulière, d'accord? Et ce phénomène-là s'est répandu un peu partout dans le monde. Alors, il y a des églises exceptionnelles comme l'église du pasteur Cho en Corée. On parle de 830 000 personnes en assistance régulière. C'est complètement... Je m'excuse le terme, mais capoté, d'accord? C'est malade comme phénomène. Et j'ai rien contre les méga churches, j'ai rien contre ça. Il y en a qui font un travail absolument extraordinaire d'évangélisation. Il y a des mouvements de mission qui partent de ces églises-là. Ça devient une dénomination en elle-même, d'accord? C'est tellement gros. Alors, Dieu peut faire des choses absolument extraordinaires avec ça. Mais je pouvais pas m'empêcher, lorsque j'étais en train de lire ce passage, de réaliser ce qui est en train de se produire avec une méga, méga church. Parce que au point où on est rendu, on a dit 5 000 missionnaires, mais vous comprenez qu'on essaie juste d'être comme sûr, là. On parle plus de 7 000, 10 000, je ne sais pas combien ils étaient rendus en conversion avec les familles, avec les épouses, les enfants. Alors, c'était une grosse, grosse église, d'accord? C'est énorme comme église. Et je ne pouvais pas m'empêcher de réaliser ce qui est en train de se produire avec cette église-là qui est énorme, peut-être 5 000, 10 000 personnes. Et on est obligé d'observer, on est obligé de constater que pour Dieu, les obstacles à l'Évangile sont des opportunités pour l'Évangile. Nous sommes obligés d'observer parce que c'est dans ce sens-là que Luc s'en va ici. Rien dans le texte me dit ici que c'est l'Esprit de Dieu qui a suscité cette persécution. C'est pas écrit comme ça aurait pu l'être si j'avais été dans l'Exode. C'est pas écrit que Dieu incita, Dieu tenta Saul d'aller persécuter l'Église. Il nous est pas dit cela ici. Seulement, il y a un obstacle absolument extraordinaire qui explose en pleine face de l'Église de Jérusalem. Et je suis obligé de conclure en lisant le passage que cet obstacle absolument phénoménal est en fait transformé en une opportunité extraordinaire pour l'avancement de l'Évangile. Amen. Dieu prend cet obstacle extraordinaire devant l'Église, cet obstacle à la proclamation de l'Évangile, et le transforme dans une opportunité absolument extraordinaire pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous parler très brièvement d'un monsieur, je suis en train de lire un petit bout de biographie qu'il a écrit, il s'appelle Richard von Brand, pas de sa faute. Peut-être qu'on peut aller voir sa photo à la fin des acétates, s'il te plaît. On peut aller voir sa photo, Richard von Brand, pasteur luthérien décédé maintenant, c'est lui qui a fondé l'organisation La Voix des Martyrs. Alors, le pasteur von Brand était en Roumanie et il a fait de la prison. Il a fait de la prison pour sa foi parce qu'il annonçait l'Évangile sous les nazis en Roumanie. Mais il a dit les nazis, c'était rien. C'était assez simple. Il te mettait en prison, il te battait puis il te laissait sortir. Il a fait de la prison aussi sous le communisme parce que le communisme est entré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Roumanie et est venu s'imposer. On a une belle photo de lui, super sympathique. Après un séjour en prison, d'accord? Alors, le pasteur von Brand était un pasteur luthérien. Si j'ai bien compris, il a fait 8 ans de prison une première fois, a été libéré quelques années, a refait 5 ans de prison après. Tout simplement parce qu'il annonçait l'Évangile de Jésus-Christ. C'était anti-révolutionnaire. Ça allait contre la révolution communiste qui est en train de s'installer en Roumanie à ce moment-là, qui est un mouvement profondément athée, évidemment. C'est un mouvement très matérialiste. L'homme, l'être humain, n'est que matière. Il n'a pas d'âme, il n'a pas d'éternité. Et donc, de prétendre que l'être humain doit aspirer à une communion avec Dieu, une éternité, marcher avec des principes moraux qui ne sont pas dictés par la nécessité sociale et par l'État, mais dictés par la parole de Dieu. Tout ceci était contre-révolutionnaire. Ça allait contre la révolution communiste qui veut s'imposer en Roumanie. Et il prêchait l'Évangile, et il prêchait l'Évangile, et on le jetait en prison, et il prêchait l'Évangile. Et ce qui est extraordinaire dans ce petit bouquin-là, il a écrit ça en 3 jours. Après un de ses séjours en prison, probablement le deuxième, puisqu'il va plus loin dans l'histoire, en 3 jours, il a écrit ça. C'est pas de la grande littérature, mais c'est simplement l'expérience d'un cœur qui est toujours en feu pour Jésus-Christ après avoir subi tout ça. Cet homme-là a été vraiment maltraité. 18 trous dans le corps. Je vous donne le plus simple des éléments. Vous avez juste à faire une recherche sur Internet. Vous allez voir des photos avec ses cicatrices, tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est bien documenté. D'accord, il a vraiment été maltraité. Mais dans son livre, cette même puissance de l'Esprit qu'on trouve dans le livre des Actes, où on voit l'Esprit de Dieu prendre des obstacles à l'Évangile et les transformer en opportunités pour l'Évangile, on dénote la même chose dans son récit. Et il raconte qu'une fois jeté en prison, bien pour lui, tout simplement, ce que Dieu faisait, c'est qu'il désignait un nouveau champ missionnaire. C'était la prison, c'était les prisonniers, c'était les gardiens, c'était les gens qui les torturaient. Il a simplement été changé de terrain de mission. Et donc, il raconte que dans ces prisons, il a rencontré l'église clandestine. l'Église persécutée qui est jetée en prison. Et il dit, ce n'était pas rare de voir des choses absolument extraordinaires. Et il a beaucoup d'ironie lorsqu'il raconte ça parce qu'il dit, voyez-vous, notre passion à nous, c'était de prêcher Christ. Et il dit, la passion de ces bourreaux-là qui étaient convaincus qu'il n'y aurait jamais à rendre compte devant Dieu de n'importe quoi, c'était de nous battre. Et donc, ils nous menaçaient de nous battre si on prêchait Christ. Alors, tout le monde était content parce que nous, on était contents de prêcher Christ et eux autres étaient heureux de nous battre. Tout le monde était heureux en prison. C'est pas quelqu'un, un petit chrétien, assis dans son salon en Amérique du Nord, avec son Nintendo dans les mains, prend une pause puis dit, « Oh Seigneur, fais venir la persécution sur l'Église afin qu'elle soit plus pure. » Comprenez, c'est pas ça, là. Il n'y a pas de Nintendo, c'était des coups. Donc, il dit, ce n'était pas rare de voir des scènes où un prisonnier chrétien est en train d'annoncer l'Évangile et puis les gardiens entraient brusquement, très rapidement, ils entraient là et puis dès qu'ils les surprenaient, ils les traînaient, ils allaient les battre jusqu'à ce qu'ils soient à moitié morts. Et puis ces gens-là, ensuite de ça, étaient rejetés dans la prison, prenaient le temps de retrouver leurs énergies un peu et puis disaient, bon, où est-ce qu'on en était, les frères? Ce qu'on voit dans le passage ici ce matin, c'est la puissance et la gloire de l'Évangile et la puissance de l'œuvre de l'Esprit. Et ce qui apparaît aux yeux du monde et aux yeux d'un cœur qui est refroidi par rapport à la mission, ce qui apparaît comme un obstacle et un désastre incroyable, est en fait transformé par la puissance de l'Évangile et de l'œuvre de l'Esprit dans une opportunité pour la mission absolument phénoménale et extraordinaire. Ce matin, on va voir trois points très brièvement ensemble. Premièrement, la croix, un objet de scandale qui suscitera toujours de l'opposition. Deuxièmement, la puissance de l'Évangile et de l'œuvre de l'Esprit surmonte tous les obstacles. Et enfin, troisièmement, l'Esprit est donné à tous les disciples deviennent témoins. C'est un point tournant dans le récit des Actes où certaines des promesses faites par Jésus, des prophéties faites par Jésus viennent s'accomplir et on peut commencer à mesurer davantage la puissance de l'œuvre de l'Esprit dans ces quatre versets-là très, très courts. Premièrement, la croix, objet de scandale qui suscitera toujours de l'opposition. Voyez-vous, le Christ en croix était quelque chose de scandaleux. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, 23, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » La croix va toujours être un objet de scandale. La croix, c'est l'histoire d'un Dieu qui a tellement aimé les hommes qu'il s'est humilié au point d'être crucifié pour les hommes. Et voyez-vous, pour le cœur humain, qui est un cœur fier et orgueilleux. L'être humain est un être qui cherche l'indépendance à tout prix, l'autonomie à tout prix, parce que le don de soi et l'humilité, c'est épuisant. Pour le cœur humain qui est tellement arrogant, qui veut tellement affirmer son autorité sur sa propre vie, il y a quelque chose de profondément scandaleux de voir un Dieu qui vient s'humilier en mourant sur une croix. Parce que ma seule réponse à un tel acte, c'est l'humilité de reconnaître que j'en ai besoin. Encore si ce Dieu-là était un Dieu terrifiant, orgueilleux, dominateur, au moins on saurait qu'on doit faire les petits caniches devant lui de peur d'être foudroyé. Mais quand on annonce l'Évangile, on parle d'un Dieu extraordinairement puissant, grand et majestueux, qui s'est humilié en venant mourir sur une croix pour nos péchés. Et la seule réponse valable à ça, c'est l'humilité. De reconnaître que si Dieu, qui est si grand, a jugé nécessaire pour mon salut, pour mon éternité, de venir s'offrir en sacrifice, de venir offrir son Fils en sacrifice sur la croix, la seule réponse valable, c'est l'humilité. Et l'être humain haït l'humilité. L'être humain déteste au plus profond de lui-même cette posture qui dit « Je ne pouvais rien faire par moi-même pour gagner mon ciel. » L'être humain déteste ça. ça vient à l'encontre de toute la rébellion qu'il y a au fond de nos cœurs. L'Évangile sera toujours un objet de scandale. Il n'y a pas de manière d'éviter ça. Il n'y aura pas d'église à construire qui va permettre de présenter l'Évangile comme quelque chose de cute, sweet, puis attrayant pour tout le monde. Parce que nous devrons toujours prêcher la croix, le scandale de la croix. Tu es un pécheur, damné, et ton seul moyen de salut, c'est de reconnaître que Dieu devait mourir sur cette croix pour toi. Que le Fils de Dieu devait être crucifié sur cette croix pour toi. L'Évangile sera toujours un objet de scandale. Et si on commence à rêver d'une église, d'une approche, d'une méthode, de n'importe quoi qui va faire en sorte que la société va être « Wow! » Lisez Actes. Vous en aviez une superbe église avec un super témoignage. Mais voyez-vous, notre message, c'est le scandale de la croix. Et pour un, il va être un parfum de vie, pour un autre, un objet de scandale. Deuxième élément lié à ça, la croix objet de scandale, c'est que les messagers seront toujours haïs. Tournez avec moi dans Matthieu 10, s'il vous plaît. Tournez rapidement dans Matthieu 10, je veux vous lire plusieurs versets. Simplement pour se rappeler que les choses devaient se passer ainsi. Matthieu 10, 24, voici les paroles du Seigneur Jésus lui-même, d'accord? Voici ce qu'il dit. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Moi, j'entends les apôtres qui sortent de prison et qui se réjouissent, ma gang, de fêler, d'avoir été battus pour le nom de Jésus. C'est ça que j'entends ici. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul parce qu'il disait que les miracles qu'il faisait, c'était par la puissance du diable qu'il le faisait, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le à plein jour, maintenant proclamez-le, Jésus-Christ est ressuscité. Prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez Dieu, craignez Christ, craignez celui qui tient dans ses mains le livre et les sceaux, la destinée de l'humanité. Celui qui siégera et qui jugera les nations, celui-là, craignez-le. Ne craignez pas les hommes qui peuvent détruire votre corps seulement. Ne vantons pas deux passereaux comme pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et par le fait même, cette persécution qui vient éclater à Jérusalem ne se produit pas à l'extérieur de la volonté de Dieu. S'il ne tombe pas un cheveu de ma tête sans que Dieu ne l'ait permis à tout le moins, cette situation qui peut sembler catastrophique dans le livre des Actes n'est pas hors de la volonté de Dieu. Cela va entrer dans les desseins souverains et parfaits de Dieu. Les messagers seront aimés et ils seront haïs. Et il en sera toujours comme ça. Si vous annoncez un évangile qui est toujours aimé, vous annoncez un autre évangile. Et malheur sur vous, parce que Paul dit que vous soyez maudits si vous annoncez un autre évangile. Si votre évangile passe comme du beurre dans la poêle, avec les cœurs rebelles qui ne veulent pas en fait reconnaître Christ comme leur sauveur, vous n'annoncez pas l'évangile de Jésus-Christ. Vous annoncez un autre évangile. Paul dit que vous soyez maudits. Que vous soyez maudits si vous annoncez un autre évangile. Que Dieu nous garde de faire ça. Ce message-là sera aimé. Parce que dans toutes les générations, il va y avoir des gens de toutes les nations qui vont se convertir et qui vont venir à Christ. Ce message-là va être aimé, mais il va être haï aussi. Deuxièmement, la puissance de l'Évangile et de l'œuvre de l'Esprit dépasse, surmonte les obstacles. Le terme que Luc emploie ici lorsqu'il dit « l'apôtre Paul ravageait l'Église ». Écoutez, c'est quand même confondant parce que on a vraiment une espèce de scénario idéal qui est en train de se construire là, une église extraordinaire qui est en train de se bâtir. Je veux dire, Jésus avait dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Mais voilà, vous avez des milliers de personnes qui s'aiment au point de vendre des biens, de prendre soin les uns des autres, de vouloir marcher dans la sainteté. Vous avez un joyau, vous avez une perle qui est là. Un témoignage puissant. Ils sont, moi je le sens, ils sont sur le point de commencer à implanter des églises filles. Ils sont là, là, ça s'en vient. Les missionnaires vont commencer à sortir, on va envoyer des églises filles partout, ça va être extraordinaire. On va reproduire le modèle Jérusalem. L'église commence à se structurer. C'est pas tout à fait encore l'église idéale. Difficulté dans certains services, peut-être pas de pouponnière encore. Le ministère auprès des enfants est pas tout à fait en place. La chorale, bon, manque de direction, c'est un peu cacophonique. Des fois, ils chantent dans toutes sortes de langues. C'est, en tout cas, vous comprenez, c'est pas encore l'église idéale. Il y a de l'organisation à faire, il y a de la structure, mais on travaille là-dessus. On a commencé à former un comité avec 7 hommes qui vont commencer à mettre de l'ordre ici, puis on a des nettoyages à faire, puis on a des choses à faire par-ci, par-là. On va y arriver à l'église idéale. Et puis, bam! L'apôtre Paul commence à aller de maison en maison avec un mandat et il arrache hommes et femmes des maisons, les fait jeter en prison, préside à leur meurtre, nous dit-il plus loin. Pas seulement celui d'Étienne, mais s'assure que plusieurs vont être mis à mort. Et cette église-là est littéralement saccagée. Elle disparaît. Une journée, elle était là, le lendemain, elle n'est plus là. En quelques jours, il n'y en a plus de rassemblement, vous comprenez? Ah, j'ai entendu parler de cette gang-là qui parle du Messie qui est venu, mais ils ne sont plus là. Où est-ce que je vais si je vais entendre ce message-là? Ce massacre-là fait penser au massacre de la Saint-Barthélemy. Si vous ne connaissez pas ça, faites une recherche, allez lire sur ça. En une nuit, le massacre qui a été fait en France de protestants. Un massacre absolument extraordinaire. En une nuit, par un jeu politique, on a zigouillé des milliers, des milliers, des milliers de protestants. C'est ça qui est en train de se passer ici. Est-ce que c'est un désastre? L'Église est ravagée. Les mères pleurent leurs enfants morts. Les épouses attendent leur mari qui va sortir de prison. Les enfants sont dans la rue, faute d'avoir des parents parce que leurs parents sont en prison. Est-ce que c'est à un désastre qu'on assiste ici? Mais quand on lit Luc, qui nous raconte ça, c'est pas le ton qui sort de là. Ça semble pas être un désastre. Qu'est-ce que Jésus-Christ désire? Qu'est-ce que vous désirez? Construire comme Église. Voyez-vous, je ne suis pas en train de dire ici, je ne suis pas en train de dire ici que Christ ne veut pas bâtir une Église organisée avec des ministères où l'ensemble des dons spirituels sont à l'œuvre et on prend soin les uns des autres. Au contraire, c'est ça qu'il veut bâtir. Et c'est ce qu'on doit constamment chercher à construire. Et c'est ce que Paul va faire, il va nommer des anciens. Une fois qu'il va être converti, va nommer des anciens, va mettre en place des diacres, des diaconesses, organiser l'Église, laisser la place à tous les dons spirituels. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est tout à fait dans l'ordre des choses de ce que Dieu veut. Mais je peux pas faire autrement en lisant le passage que de réfléchir quand même, puis de me dire à quoi est-ce que j'aspire vraiment personnellement. Et je vous pose la question, à quoi est-ce que vous aspirez vraiment? Une église qui, lorsque j'arrive le dimanche matin, a tous les services dont j'ai besoin pour pouvoir m'installer sur le cruise de la croissance spirituelle? Ou est-ce que Christ désire une église qui est en feu, où l'on prend soin les uns des autres, on forme des disciples de Jésus-Christ et on entre dans cette grande commission qu'il nous a donnée? Je ne peux pas faire autrement que me poser la question. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas dit dans le passage ici que Dieu mit à cœur à Saul de commencer à ravager l'Église. C'est une œuvre diabolique qui est en train de se passer là. C'est une œuvre démoniaque qui est en train de se passer là. Une œuvre charnelle qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Mais force est d'admettre que Dieu est souverain. Force est d'admettre que Luc semble pas profondément troublé par ça Il semble même percevoir ce moment-là comme un moment absolument majestueux et glorieux. Qu'est-ce que vous désirez comme Église? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que l'aspiration de votre cœur, c'est que nous entrions dans ce mandat que Christ nous a donné, aller faire de toutes les nations des disciples? Si c'est ça, mon attitude de cœur est complètement différente quand je viens à l'Église. Mon attitude de cœur est complètement différente quand j'ai des insatisfactions, quand j'ai des frustrations. Et ceci n'est pas pour dire, j'insiste là-dessus, qu'on ne doit pas prendre soin, qu'on ne doit pas mettre en place, qu'on ne doit pas prendre soin des aînés. Et s'il y a un chrétien qui a 20 ans de vie chrétienne et qui souffre, il faut prendre soin de lui. C'est ça aussi la puissance de l'Évangile. Mais où est mon aspiration profonde? Qu'est-ce que Jésus désire profondément? Et cette idée-là que la persécution de l'Église devient une opportunité pour répandre l'Évangile, c'est un pattern qui va se répéter à de nombreuses reprises dans le livre des Actes. Et si vous êtes familier avec le livre, Paul arrive dans une ville, proclame l'Évangile, il y a une poignée de gens qui viennent à Christ, les persécutions commencent, OK, c'est le signal, next, il passe à la prochaine ville. Alors voyez-vous, cette idée que ce qui, dans notre vie, dans la vie de l'Église, chez les gens autour de nous, semble être un obstacle phénoménal à la proclamation de l'Évangile, cette idée que l'Esprit veut certainement s'en servir comme une opportunité est là constamment dans le livre des Actes. On a des obstacles comme Église dans notre proclamation de l'Évangile, mais vous en avez autour de vous, dans votre famille, au travail, un peu partout. Avec vos voisins, vous avez essayé de parler, puis on a essayé de vous faire taire. Il y a un certain mépris peut-être qui s'est installé. Je ne sais pas c'est quoi. Des fois, c'est plus insidieux. Il y a un autre chrétien dans la famille, puis j'ose plus parler de Jésus depuis qu'il est là. Le témoignage est tellement mauvais. Ces obstacles à la proclamation de l'Évangile, l'Esprit de Dieu peut et veut les transformer en opportunités pour annoncer la parole de Jésus-Christ. Amen. Et vous devez chercher à identifier ces obstacles qui vous pourriez faire. Ce qu'on pourrait faire ici avec le livre des Actes, c'est lire ça autrement. Luc aurait pu nous dire, on va aller commencer ailleurs, en espérant qu'il nous donne le temps de mettre les choses en place, pour avoir tous les ministères d'évangélisation, toutes les affaires en place, puis vraiment qu'on ait une belle chorale lorsqu'on fait notre fête de Noël. Il y a des obstacles actuellement dans vos vies. Jésus nous dit que si Dieu a placé quelqu'un dans ta vie qui est une peste, tu sais, un ennemi, là, quelqu'un que tu voudrais avoir le droit juste d'effacer avec une gomme à effacer, tu sais. Et puis là, tout le monde s'en porte mieux. Mais Christ nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent. C'est une opportunité. Ce n'est pas du sarcasme, frères et sœurs. C'est l'ironie de la puissance de l'Évangile. C'est l'ironie de la puissance de l'œuvre de l'Esprit. Je ne suis pas sarcastique, je ne suis pas en train de mépriser des situations difficiles que vous vivez. Je suis en train de vous dire que Dieu est puissant. Et il y a une ironie dans la puissance de l'Évangile, dans la puissance de l'œuvre de l'Esprit, pour prendre des choses qui sont profondément souffrantes et difficiles pour l'avancement de l'Évangile et les transformer en opportunités pour faire briller la gloire de l'Évangile. Parce que l'Évangile brille dans toute sa beauté au milieu des sinistres, au milieu des désastres. Lorsque cette petite pousse de foi-là s'élève et continue à proclamer Christ, c'est là que la beauté de l'Évangile paraît. Richard von Braun raconte aussi, à un moment donné, au début, lorsque le communisme est arrivé en Roumanie, tout ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé au Parlement même, les dirigeants communistes ont rassemblé tout ce qu'il y avait comme prêtres, pasteurs, toute la gang, ministres, toutes dénominations confondues, ils étaient là, environ 4000 qui étaient là, et puis ils ont fait prêter serment, d'accord? Et tous les gens qui étaient là ont prêté serment pour reconnaître que Staline était le président honoraire de ce congrès-là. Et puis, il voyait, il était là avec son épouse, Richard von Braun, et il voyait les pasteurs se lever un après l'autre et faire l'éloge du communisme pour dire qu'en fin de compte, le communisme et le christianisme avaient tant de choses en commun que l'Église pouvait vraiment assurer son entière collaboration à l'État. Et à un certain moment donné, son épouse s'est tournée vers lui puis elle a dit, « Richard, est-ce que tu vas te lever pour aller laver la face de Christ parce qu'il lui crache en pleine face? » Voyez-vous, l'Évangile était foulé aux pieds. Christ était méprisé. Il y a un obstacle extraordinaire qui est en train de se lever sur la Roumanie. Et Richard se tourne vers son épouse et dit, « Tu sais que si je me lève, tu n'as plus de mari? » Elle a dit, « Je ne veux pas d'un mari peureux pour l'Évangile. » Et il s'est levé debout et il a commencé à dénoncer ce qui est en train de se faire là. Il a commencé à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et toute cette session-là était sur les ondes en Roumanie. Alors, cette situation absolument désastreuse, l'Esprit de Dieu voulait la prendre pour que l'Évangile soit proclamé et que des cœurs se tournent véritablement vers Jésus-Christ. Je ne sais pas quels sont les obstacles à l'Évangile dans votre contexte, dans votre foyer, dans votre situation, dans votre famille, au travail, chez vos proches. Mais la puissance de l'Évangile et de l'œuvre de l'Esprit peut tourner ces obstacles-là en opportunités extraordinaires pour faire briller Jésus-Christ. Et on voit dans ce passage-là que l'Esprit, en fin de compte, à travers cette situation, va simplement entrer dans la phase 2 et 3. Jésus avait annoncé dans Actes 1-8, il avait dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, phase 2-3. » C'est ça qui se passe ici, Judée-Samarie. C'est ça qui est en train de se produire. La persécution ne devient qu'une opportunité pour l'Esprit de passer à la phase 2 et 3 du plan d'action pour la mission. Et il y a encore énormément d'ironie dans le passage. J'aurais pas le temps de m'étirer sur ça, mais quand même, il faut souligner l'ironie qu'il y a là de voir Saul qui est là. Saul qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et qui commence à saccager l'Église, mais nous, on connaît la suite. On sait ce qui va se passer avec ce bonhomme-là. Il y a un fanatique qui est là, qui se prépare à se convertir bientôt. Et sa conversion va être d'autant plus troublante qu'il est un fanatique qui est en train de ravager, de saccager l'Église. Je ne sais pas qui sont les gens autour de vous qui sont les plus agressifs à l'égard de l'Évangile. Mais Dieu est puissant pour prendre les plus agressifs autour de vous, les plus méprisants. Richard von Braun était un athée qui haïssait profondément le christianisme. Et il ne savait pas pourquoi il était attiré à aller écouter ce message-là. Un jour, il ne savait pas pourquoi il était attiré à se rendre dans un village. Et dans ce village-là, il y avait un couple de personnes âgées qui priaient depuis des années pour pouvoir conduire une personne à Christ. Et ils lui ont donné une Bible. Et M. von Braun dit « Cette Bible-là n'était pas une Bible comme les autres parce qu'elle avait été baignée de tellement de prières pour le salut de celui qui allait la lire que lorsque j'ai commencé à la lire, leur message qu'ils m'avaient dit a commencé à devenir tellement clair. » Et il s'est converti. Voyez-vous, Saul est là. Et Saul va souffrir bientôt plus que tout ce qu'il a fait souffrir. Et Saul va proclamer la puissance de l'Évangile. Alors, je ne sais pas qui autour de vous sont les personnes agressivement opposées à l'Évangile. Qui dans notre société vous pouvez identifier comme des gens agressivement opposés à l'Évangile? Ils vont pas tous se convertir. Il y en a plein qui vont tirer des roches, puis Étienne va mourir, et d'autres vont mourir, et d'autres vont être rejetés. Mais la puissance de l'Évangile et de l'œuvre de l'Esprit peut aller chercher ces gens-là aussi, pour la plus grande gloire de Jésus-Christ. Et enfin, en terminant, l'Esprit est donné à tous les disciples. Voici comment je le résume. Le don est pour tous. Les claques sont pour tous. La grâce d'annoncer Christ est pour tous. C'est bon? Il y a quelque chose qui se passe ici dans le passage. Rappelez-vous ce que Gamaliel avait dit? Gamaliel avait dit, on va voir si ça vient de Dieu. Laissez les choses aller. Rappelez-vous, celui-là avait soulevé plein d'hommes, une révolte, tout ça. On l'a éliminé. Fouf, ils se sont dispersés, c'était abandonné. Celui-là aussi, lorsqu'il est décédé, oups, son mouvement est mort. Mais là, Christ est mort, puis le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. On attaque. Luc prend le temps de nous dire que ceux qui connaissaient vraiment toute la patente, les vrais preachers, restent tous à Jérusalem. Et ce sont ceux qui ont moins de connaissances, ceux qui ne sont pas nécessairement tous des leaders, qui vont se disperser partout. Il y a quelque chose qui se passe ici dans le passage où Dieu veut nous montrer que ce don de l'Esprit qui a été promis à tout le monde. Rappelez-vous ce que Pierre a dit. Pierre a dit « Repentez-vous afin que vous soyez baptisés et que vous receviez le don du Saint-Esprit. » Cette promesse est pour tous, pour tous ceux qui croiront jusqu'aujourd'hui en 2012 au Québec. Bien, c'est à ça qu'on assiste ici. Et tous ces gens qui sont persécutés, ben s'ils finissent pas en prison, ils se poussent. S'ils ont le temps de se sauver de Jérusalem, ils se sauvent de Jérusalem. Mais s'en allant, ils proclament l'Évangile de Jésus-Christ. Ils annoncent l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce à quoi on assiste ici, c'est la disparition d'une méga church par une méga dispersion qui devient en fait un méga mouvement missionnaire absolument extraordinaire, confondant, puissant. Ce qui est intéressant de remarquer dans le passage, c'est que il n'y a pas eu comme de plan, tu sais. Regarde. Jean, tu t'occupes de former les gens, cours EE, formation de disciples. Faut que tu les équipes en apologétique. Faut qu'ils soient prêts. On va se partager ça. On va avoir un plan de match. Il n'y en a pas de plan de match. Parce qu'il y a 200 policiers qui rentrent par là puis qui commencent à frapper tout le monde ici. On se pousse. Il y a 4-5 portes. On se reverra au ciel, la gang. C'est le plan de match. C'est pas organisé par les leaders. C'est pas structuré. Mais ces gens-là, s'étaient repentis. Ils avaient reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils avaient cru en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Par le fait même, ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait donné une soif nouvelle pour la parole de Dieu. Ils avaient écouté les enseignements des apôtres. Et les paroles des apôtres et la parole de Dieu étaient là dans leur esprit, sur leur cœur. Et tout cela n'attendait qu'une opportunité d'être dispersé partout pour pouvoir annoncer la bonne parole. Frères et sœurs, c'est notre mission. Notre mission, ce n'est pas de bâtir une église idéale où tout va être parfait, bien qu'on doit le faire et on veut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et mettre les choses en place et prendre soin les uns des autres et prendre soin de ceux qui souffrent. Mais notre mission, c'est d'aller jusqu'au bout de la terre et d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, afin qu'un maximum d'âmes puissent entrer avec nous dans la gloire, là où toutes les guérisons seront complétées, là où les souffrances ne seront plus. C'est notre mission. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette mission? Est-ce que vous êtes prêts à vous préparer pour ça, à chercher les opportunités? Ça prend pas nécessairement une persécution pour qu'on ait l'opportunité de prêcher. L'apôtre Paul nous dit, ne priez pas pour ça. Priez au contraire pour que vous ayez la paix, vous ayez la liberté d'en faire une belle église qui va avoir un beau témoignage, puis des gens vont venir le dimanche matin ici entendre parler de Jésus. Mais notre mission, premièrement, c'est chacun d'entre nous d'avoir dans notre tête, sur notre cœur, ces versets qu'on est en train de mémoriser. Partir avec la caravane de l'espoir. Témoignez à vos voisins cette semaine. Vous embarquez dans le projet qu'Alex nous a présenté avec ces livres qu'on va prendre puis on va prier pour telle personne à qui je veux donner ça. Proclamez l'Évangile de Jésus-Christ et vive dans cette grâce. Cette Église-là est heureuse. Je peux vous assurer qu'elle est heureuse à travers les larmes, les tristesses et les déchirements. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit en train de faire ce que l'Esprit de Dieu veut faire à travers elle. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est en ton précieux nom qu'on vient dans ta présence. C'est en Jésus-Christ, Seigneur, qu'on veut se cacher pour venir t'adorer, pour venir te célébrer, pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux voir cette gloire dans ma vie personnelle, Seigneur. Et je veux répondre premièrement de moi-même, de ma famille, de mes enfants, de mon épouse. Je veux répondre devant toi, Seigneur, aussi parce que tu m'as placé comme enseignant ici de ce que j'apporte à cette assemblée. Et je veux voir cette Église, Seigneur, annoncer Jésus-Christ avec simplicité, offrir un verset, un traité, un évangile, inviter les gens à l'Église, inviter les gens dans une réunion de prière, saisir une opportunité pour aider et tout simplement dire qu'on le fait au nom de Christ. Seigneur Jésus, je veux voir cette Église rempli de ton esprit pour voir ce que toi tu désires. Pour avoir les yeux premièrement fixés sur la mission, sur l'œuvre du royaume, plutôt que sur une église idéale à construire, Seigneur. Et je veux voir cette église prête à souffrir pour toi, Seigneur Jésus, prête à offrir sa vie pour toi, Seigneur Jésus, et le faisant quotidiennement en proclamant Jésus-Christ. C'est au précieux nom de Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen.
Je vous invite à vous lever, on va chanter un dernier chant ensemble. Jésus qui est l'espoir des nations. On va chanter ensemble.
Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, Jésus. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir, vivant.
Jésus, nous croyons en toi, nous croyons à ta puissance qui peut nous remplir afin que les nations sachent combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu veux les sauver. Seigneur, remplis-nous de toi afin que nous parlions de toi et que tu puisses être notre seul sujet de joie. Et en ton nom qu'on te prie. Amen. Merci, bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse.